que je vous invite de tourner avec moi au troisième arrêt de Paul lors de son deuxième voyage missionnaire. Et ça, c'est son arrêt dans la ville d'Athènes. Donc, on est en Actes chapitre 17 et tantôt, on va lire la visite de Paul à Athènes à partir du verset 16. Mais avant, faisons une petite récapitulation. Vous allez vous rappeler qu'au mois de janvier, lors d'une immense tempête de neige, toutes les tempêtes de neige cet hiver ont eu lieu le dimanche. Donc, mes amis congolais disent que le Satan, il est prince de l'air. Donc, ils interprètent l'air comme la météo. J'ai dit, votre idée est bonne, mais votre théologie est croche. On a commencé avec la visite de Paul à Philippe. Et on a vu qu'à Philippe, Paul a rencontré trois personnes. Lydie, ensuite il y avait la jeune fille qui était démonisée et Paul l'a dédémonisée. Et ensuite il y avait le gardien de prison. Et on a vu que la façon que Paul a planté l'église à Éphèse, que la façon qu'il a évangélisé, c'était vraiment un témoignage chrétien, personne à personne. Et le défi qu'on s'est donné lors de ce message, c'était de vraiment prioriser notre témoignage auprès de nos amis, au cégep, à l'université, dans le milieu de travail, dans notre quartier. Après les tristes événements de vendredi en Nouvelle-Zélande, hier, je suis allé visiter mon voisin Ahmed. Il est un prof, il habite le Québec depuis une dizaine d'années maintenant. Il est du Maroc, il est musulman. Et je suis allé le voir et j'ai dit, Ahmed, je trouve ce qui est arrivé à Christchurch épouvantable et je veux que tu saches que je prie pour toi et je prie pour mes voisins et nos voisins musulmans ici. Je comprends un petit peu ton deuil. Et Ahmed et moi, nous cultivons une excellente amitié. Donc, une amitié où je lui parle de Jésus. On a vu aussi ce que Paul a dit quelques années plus tard quand il a écrit sa lettre aux Philippiens. Et il a dit, « Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'Évangile du Christ en vrai citoyen de son royaume. » Donc, que fait un témoin dans sa ville? Cette personne, elle est une citoyenne. Donc, le défi qu'on s'est donné au mois de janvier, c'était vraiment de dire, OK, comment allons-nous cultiver nos amitiés pour porter témoignage sur Jésus et tous ses enseignements en parole et en action? Au mois de février, il n'a pas beaucoup neigé ce dimanche, mais il a fait excessivement froid. Et on a vu comment Paul a visité, deuxièmement, Thessalonique et Bérée. Et on a vu ces deux villes et on a vu comment il discutait avec les gens, comment il a expliqué que Jésus était le Messie et il exposa toute la vie de Jésus. Et à Bérée, il a ouvert le Torah, les textes, pour expliquer que Jésus est roi. Et l'application qu'on s'est donnée après le deuxième et troisième arrêt, c'est qu'on a vu que Paul mettait un accent sur une personne, Jésus le roi. On a vu comment il a offert la vie, il a offert le don de la grâce. Mais il attendait une réponse. Et à Thessalonique, la réponse était très négative, il a été chassé de la ville. Mais Paul n'a pas abandonné, il était à Bérée. Et la réponse qu'il a reçue à Bérée, c'est qu'il y avait des femmes influentes et quelques personnes qui ont décidé d'étudier plus. Et l'application qu'on s'est donnée, c'est qu'on a vu comment Paul, dans ces deux villes, a dialogué avec les gens, mais en même temps, il a fait des études avec ces gens. Et des fois, surtout dans nos campus cégep et dans nos campus universitaires, nous avons une occasion de s'asseoir longtemps avec les gens et discuter Jésus à partir des textes bibliques. Je vous ai parlé il y a un mois de mon ami Yves. Et pendant plus que 10 ans, on faisait des études ensemble avant qu'il ait décidé de suivre Jésus. Et je vous lance la même idée. Des fois, un petit groupe peut être une excellente occasion pour porter témoignage sur Jésus et tous ses enseignements. Beaucoup d'entre vous, vous connaissez le parcours Alpha. 14 études sur la vie de Jésus. Un parcours qui inclut aussi une fin de semaine quand les gens se réunissent pour regarder les vidéos et discuter l'Esprit-Saint. Mon épouse anime un parcours Alpha cet hiver. Et hier, les 16 personnes dans son groupe, les gens de l'église que Sandy et moi fréquentons, toutes les nouvelles personnes, ce groupe s'est réuni, ils ont passé la journée pour visionner ces vidéos et discuter. Et hier à midi, un des jeunes hommes dans ce groupe a finalement dit, « OK, maintenant je comprends, Jésus est mort et il est ressuscité pour moi. » Et il a dit, « Sandy, qu'est-ce que je fais ?» Donc, un petit groupe, Sandy a dit, « Francis, moi je vais prier à haute voix, toi tu peux répéter et tu peux nous annoncer et dire à Jésus que tu veux le suivre et vivre le pardon. » Et Francis l'a annoncé. Et il a dit, à la fin, il dit, « What's next ?» Et Sandy a dit, « Je pense, Francis, que ça serait important pour toi d'annoncer publiquement que tu as décidé de suivre Jésus. » Et on appelle ça dans notre église un baptême, comme Norton vient de dire. Et Francis a dit, « C'est quand le prochain baptême ?» Donc, à Pâques, Francis va annoncer publiquement qu'il a décidé de suivre Jésus. OK. Qu'est-ce que Sandy et son équipe a fait? Ils ont pratiqué la méthode de Paul à Béret, où ils ont fait une étude pendant 4 mois et Francis a décidé de suivre Jésus. Donc, que ça soit une méthode Philippe, méthode dialogue à Thessalonique, que ça soit une étude biblique à Béret, vous voyez ce que Paul faisait. Mais aujourd'hui, Paul fait quelque chose de différent. OK, tournez avec moi à Actes chapitre 17. Donc, si vous avez vos Bibles imprimées, ouvrez ce texte. Si vous avez votre Bible cellulaire, ouvrez cela. Et moi, je vais lire Actes 17 à partir du verset 16. Pendant, OK, donc, Paul était à Béret. Maintenant, il descend la péninsule, il arrive à Athènes et regardez la conjonction. Pendant qu'il attendait ses compagnons qu'il a laissés à Béret pour faire le suivi, Paul bouillait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. Il discutait donc dans la synagogue avec les Juifs et les païens convertis au judaïsme, et chaque jour sur la place publique avec tous ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes et épicuriens et des stoïciens engageaient aussi des débats avec lui. Les uns disaient, « Qu'est-ce que cette pie bavarde vient vouloir dire ?» D'autres disaient, « On dirait qu'il prêche des divinités étrangères. En effet, Paul annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la dite résurrection. » Pour finir, ils l'amenèrent et le conduisèrent devant l'Aréopage. Pouvons-nous savoir, lui dirent-ils, alors en quoi consiste ce nouvel enseignement dont tu parles? Les propos que tu tiens sonnent de façon bien étrange à nos oreilles. Nous désirons savoir de ce qu'ils veulent dire. Maintenant, il y a une petite parenthèse ici, faite par Luc, qui est le rédacteur de l'histoire. Il se trouve en effet, Luc a écrit, que tous ces Athéniens et les étrangers qui résidaient dans leur ville passaient la plupart de leur temps à dire ou à écouter les dernières nouvelles. OK. Fini la parenthèse de Luc. Alors Paul se leva au milieu de l'Aréopage et dit, « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement soucieux à honorer des divinités. En effet, en parcourant les routes de votre ville et en examinant les monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription à un dieu inconnu. Ce que vous révérez ainsi sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve et qui est le Seigneur du ciel et de la terre n'habite pas dans les temples bâtis des mains d'hommes. Il n'a pas besoin plus d'être servi par des mains humaines comme c'est lui manqué quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toutes choses. À partir d'une seule âme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent tous la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu a invité les âmes à chair à le chercher et le trouver. Peut-être comme attend-on lui qui n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme nous a affirmé aussi certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. Ainsi, puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas imaginer la moindre ressemblance entre cette divinité et des idoles, en or, en argent ou en marbre, qui peuvent produire l'art ou l'imagination des êtres humains. Or, Dieu ne tient pas compte des temps et les âmes ne le connaissent pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer de vie. Car il a fixé un jour, il jugera le monde entier en toute justice par une âme qu'il a désignée pour cela et dont il a donné à tous une preuve certaine en la ressuscitant d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection d'entre les morts, les uns se marquèrent de Paul et les autres lui dirent « Nous t'écouterons là-dessus une autre fois ». C'est ainsi que Paul se retirait de leur assemblée. Cependant, quelques auditeurs se joignirent à lui et devenirent croyants, en particulier Denise, un membre de l'Aréopage, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Ce matin, pour regarder cette visite et pour en tirer une application, si vous voulez, une appropriation, pour nos vies ainsi que pour l'Église 21 dans son emplacement ici à Ville-Marie, dans l'arrondissement de Ville-Marie, ainsi que pour vos groupes de quartier. Moi, j'aimerais attirer votre attention à 9 volets de cette visite à Athènes. Donc, on va décortiquer le texte en regardant ces 9 choses. Et évidemment, il faut commencer à Athènes. Et vous pouvez avancer. Et vous avez le portique. Athènes était toute une ville. Et Paul aurait surtout connu l'importance de la ville d'Athènes, l'impact de la ville d'Athènes, mais aussi le déclin de l'Empire grec. Mais l'influence d'Athènes continuait. Peut-être il aurait même lu les écrits du grand poète grec Cicéro, qui a dit ceci: « Ici présente sont les gens d'Athènes, un peuple qui pense l'humanité, les savoirs, la religion, le grain, les doigts, et d'où les lois du monde entier sont nées ici et se sont répandues partout. » Et Cicéro a dit, malgré le fait que la Grèce est en plein déclin, la réputation de cette ville continue. Et Paul y est arrivé. De toutes les visites de Paul lors de son deuxième voyage missionnaire, Philippe, Thessalonique, Bérée, maintenant Athènes, la prochaine fois au mois d'avril, Corinthe et finalement Éphèse. Athènes était la plus petite ville qu'il a visitée. À peine probablement à l'époque de Paul, 10 000 personnes. Mais de loin, après Rome, la ville la plus influente. Paul aurait bien connu l'Acropolis, qui était le temple pour les déesses grecques. Et le texte nous raconte qu'il a été amené dans l'Aréopage, qui était aussi une colline pour une autre déesse grec. Le nom en latin pour l'aréopage, c'était Mars Hill, si on le traduit. Et c'était un lieu du grand débat. Et Paul, le texte dit, il arrive là. Maintenant, deuxième chose à noter, c'est que Paul n'a pas commencé avec une prédication. Paul, deuxièmement, n'a pas commencé avec un grand discours. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul a décidé de parcourir la ville. Comme Néhémie a fait lorsque il visitait les ruines de Jérusalem après que Jérusalem a été rasée par les Babyloniens. Et comme Jonas a fait lorsqu'il est arrivé à Ninive, Paul a parcouru, il a marché dans la ville, il faisait une investigation, il a essayé de comprendre ce qu'on peut appeler l'éthos de la ville. Maintenant, au verset 16, le texte dit que Paul bouillait d'indignation. Le mot ici dans le texte original nous porte l'idée que Paul brûlait de colère. Il était fâché. Parce que le texte dit, au verset 16, « La ville a été inondée, tout à fait submergée, étouffée littéralement par les idoles. » Et Paul, bon juif qu'il était, une âme dédié au monothéisme. Quand il voyait le polythéisme, il a été outré. Et ça a bien marqué l'apôtre Paul. Mais, troisième chose que nous voyons, maintenant dans le verset 17, où est-ce que Paul a commencé? Il n'a pas commencé dans l'Aréopage. Il n'a pas commencé là où Luc va nous amener dans un instant. Il a commencé dans la synagogue. Et vous vous souvenez, la dernière fois, on a vu qu'au début du chapitre 17, le texte dit, comme c'était sa coutume, ou selon sa coutume, Paul était un bon juif et il a toujours commencé son évangélisation dans une ville, auprès des juifs, dans une synagogue. Les gens qui craignaient Dieu. Pas les dieux, mais Dieu. Donc, Paul est allé dans la synagogue. Et nous avons le même mot de ce qu'on a vu à Thessalonique. Paul dialoguait, il discutait avec les juifs dans la synagogue. Maintenant, avec ce troisième point. Luc aurait pu mettre l'accent sur l'évangélisation que Paul faisait dans la synagogue. Mais Luc a bien su qu'il y avait quelque chose de plus important à raconter à ses lecteurs. Donc, Luc ne met pas l'emphase sur une évangélisation juive. Il avait bien fait ça déjà pour Thessalonique et Bérée. Vous allez vous rappeler, il n'y avait pas de synagogue à Philippe, donc il n'y avait pas de grands juifs à évangéliser. Donc, Lydie, une grecque, une fille démonisée, et un romain, le gardien de prison. Et Luc, maintenant, nous ramène dans le contexte grec de la ville. Donc, quatrième chose que nous apprenons de notre lecture de sa visite. Paul continue de dialoguer. Verset 17 et verset 18. Mais maintenant, il va avoir un entretien et Luc nous parle des épicuriens et des stoïciens. Maintenant, qui sont ces personnes? Parce qu'en quelque sorte, Athènes, c'était un lieu de rencontre pour des philosophes. Vous allez vous rappeler de ce que Luc a dit dans sa petite parenthèse, que les Athéniens ne faisaient rien que de parler ensemble toute la journée longue. OK, et Luc attire notre attention tout d'abord aux épicuriens. Le fondateur des épicuriens, trois siècles avant la naissance de Jésus-Christ, c'était Zénos. Mais il y avait toutes sortes de branches des Épicuriens. Selon les Épicuriens, le monde a été divisé en deux parties. Et les dieux et les déesses ont été complètement évacués de cette déchirure. Les dieux et les déesses existaient, mais ils ne se sont jamais intervenus. Et le monde évoluait selon son propre destin. Donc, la chance, l'espace, le plaisir, c'est ça qui comptait. À l'époque de Paul, les stoïciens étaient beaucoup plus populaires, que je vais expliquer tantôt, que les épicuriens. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Quand moi j'étais étudiant universitaire, je suis un de ces Canadiens qui est allé aux États-Unis pour faire mes études du premier cycle, et je suis allé à l'Université de Michigan, juste à l'autre côté de Détroit. Et le co-op où j'habitais était tout près d'une crèmerie qui vendait, évidemment, la crème glacée. Sur le menu de ce restaurant qui s'appelle Farrell's, il y avait un délice. C'était 2 litres de crème glacée avec 2 canettes de Cerises, avec 1 canette de chocolat et avec 2 canettes de crème fouettée. OK. J'étais là entre 69 et 73. Tout cela pour 4,95 $. Et si on le mangeait tout seul, le deuxième était gratuit. Et ça, c'était appelé la délice épicurienne. L'épicurien, il aurait dit, de vivre, c'est le plaisir. Les épicuriens auraient bien dit, « Ah, merci Seigneur, c'est samedi. » Le plaisir, c'est ça qui comptait. Zénos et les épicuriens étaient écœurés par le fatalisme qui dominait la pensée grecque. Donc, ils ont créé une philosophie, une idéologie qui évacuait le fatalisme et les dieux et les déesses. À l'autre côté de la pensée, c'était les stoïciens, créés par Stoa. Encore 3 siècles avant Jésus-Christ. Et les stoïciens étaient les panthéistes. Pas les polythéistes, les panthéistes. Dieu était partout, en tout. Dans le micro, dans ma plume, dans le livre, était partout. Et on était contrôlé par ses esprits. Donc, les stoïciens étaient incroyablement fatalistes. Ils vivaient dans la soumission. La clé de leur pensée, c'était l'endurance. Donc, si les épicuriens ont dit « Je vis pour m'échapper, pour le plaisir », les stoïciens diraient « Je vis pour souffrir ». Les stoïciens auraient dit « Oh, Dieu merci, c'est lundi. » Et ils étaient captifs. Et ils ont amené Paul à l'Aréopage. Et Paul était confronté par 2 imaginaires sociaux, 2 visions du monde, 2 philosophies différentes. Et il a dû naviguer là-dedans. Donc ça nous amène à notre 5e point. Parce que, au verset 18, les philosophes d'Athènes ont dit, « Qu'est-ce que ce pibavard nous a à dire ?» Évidemment, d'appeler quelqu'un un pibavard, c'était pas un compliment. C'était un joual athénien qui disait quelqu'un qui était en dehors de notre fraternité. C'est un mot athénien. Et quelqu'un qui ne faisait pas partie de la fraternité philosophique d'Athènes était un blah, un pibavard. Et Paul, il arrive. Voici ce qui est fascinant dans ce cinquième point. Malgré le fait que Paul était entièrement un monothéiste, mais à sa conversion, il a reconstitué son monothéisme juif autour de Jésus. Mais il restait farouchement dédié au monothéisme, mais interprété d'une façon trinitaire. Mais Paul était capable d'utiliser les catégories païennes pour confronter les pensées des autres. Il savait comment faire le pont entre ses croyances en Jésus-Christ et les pensées du monde à son époque. Pour ainsi dire, Paul, comme il a dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 10, il était capable de prendre toute pensée captive et l'amener à l'obéissance de Jésus. Et dans notre cinquième point, voici ce que le pis bavard va faire. OK, sixième point. Regardez le verset 22. Parce que Paul arrive dans l'Areopage. Ben, vous allez vous rappeler qu'est-ce que j'ai dit dans le deuxième point. Quand il visitait la ville, il bouillonnait d'indignation, il était outré, il était fâché par le polythéisme. Mais maintenant, dans le sixième point, quand il se lève, il dit, « Je vois que vous, les Athéniens, vous êtes très religieux. » Il y a une autre façon d'interpréter ce mot en grec. Ça se peut que Paul leur ait dit, « Je vois que vous êtes très superstitieux. » Mais l'idée ici, c'est que Paul savait qu'ils étaient très respectueux du divin. Et Paul a jeté un pont. Petite parenthèse, application. Voici un des plus grands défis que nous avons aujourd'hui. Je ne vais jamais oublier, il y a quelques années, j'avais une contrat. J'étais cédé de mes fonctions à Direction chrétienne pour travailler pour le ministère d'Éducation. Et j'étais le président d'un comité gouvernemental qui était responsable pour l'enseignement religieux, moral et religieux, dans toutes les écoles du Québec. Le système a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Et quelques pasteurs m'ont demandé s'ils pouvaient faire une présentation devant le Conseil supérieur de l'éducation, parce qu'ils voulaient expliquer leur souci face au système d'éducation. Moi, j'étais capable d'arranger pour une rencontre de ces pasteurs devant le Conseil. Malheureusement, quand ils ont pris la parole, le porte-parole de ce groupe a commencé son discours en disant ceci. Le grand problème avec le système d'éducation au Québec, c'est que c'est dirigé par les païens. Le groupe a perdu leur auditoire comme ça. Et après la rencontre, et moi je me sentais tellement mal, mais le président, il a dit, Glenn, penses-tu que je suis un païen? Vous voyez, Paul était capable, spirituellement et à partir de sa vision du monde, de réagir à la au polythéisme d'Athènes. Mais publiquement, il savait comment jeter un pont. Et il a dit, « Je vois que vous avez un respect Et aujourd'hui, mes amis, on peut dire ce qu'on veut sur la société québécoise, mais la spiritualité de nos voisins et nos voisines monte, accélère. Et nous pouvons jeter un pont. Plutôt de les dénigrer parce qu'ils n'assistent pas à l'Église, parce qu'ils ont une religion à la carte, parce qu'ils ne mènent pas une vie qui est tout à fait alignée avec la Bible. Non, ne commencez pas de façon négative. Jetez un pont. Commencez avec la spiritualité des Québécois et des Québécoises. Et par la suite, éduquez les gens. Et voici ce que Paul a fait. Mon sixième point. OK, mon septième point. Maintenant, il adresse la parole. Et voici ce qui est fascinant. Si vous étudiez le stoïcisme et l'épicurianisme, vous allez voir, dans ce septième point, que du verset 24 à 26, Paul parle directement aux stoïques. Et il corrige leur réflexion bornée, leur captivité à leur vie qui est prise dans le maintenant. Et il leur donne une vision de ce qu'on appelle la transcendance. Les stoïques étaient pris avec le ici-bas, le fatalisme, la superstition, l'endurance. Ils étaient les gens d'en bas. Et Paul leur donnait une vision de au-delà de ce qu'on appelle la transcendance. Donc, il dit que Dieu est créateur, que son immensité ne peut pas être confinée. Il est suffisant en soi, il n'a pas besoin de nous. Et il amène les stoïques de voir le monde d'une autre façon. Maintenant, il parle aux épicuriens. Et dans les versets 27 à 29, maintenant, il va corriger la fausse transcendance des épicuriens. Et il va amener ce groupe terre à terre. Et il a dit que Dieu est présent parmi nous. Et voici ce qui est fascinant. Paul cite deux poètes athéniens pour prouver son point. Il dit, nous sommes de sa race. Et la divinité n'est pas une invention humaine. Et maintenant, on arrive pour notre dernier point. Et maintenant, nous voyons la conclusion de Paul. Et dans les versets 30 et 31, Paul amène tous ces éléments ensemble. Et regardez sa conclusion. OK, pour récapituler. On a vu la ville d'Athènes, ça c'était le premier point. Deuxième point, il marche dans la ville, il approprie son milieu. Troisième, il a commencé dans le synagogue, mais il n'a pas resté là, et Luc ne nous en parle pas du synagogue. Quatrième, on a vu son auditoire, les épicuriens et les stoïciens. Cinquième point, on voit son approche. Le pis bavard, qu'est-ce qu'il fait? Sixième point, on a vu comment il a commencé. Septième point, les stoïques. Huitième point, les épicuriens. OK, arrivons maintenant à la conclusion. Et Paul va amener tous ces éléments ensemble et il va dire, le temps d'ignorance est fini. Et qu'est-ce que Paul dit? Il dit, changez votre vie. Dans la vaste majorité de nos textes, nous avons le grand mot biblique, repentance. Mais qu'est-ce que la repentance? C'est de changer son comportement, changer son avis, changer sa vie. Pourquoi? Parce que le Dieu créateur a pénétré le présent et il offre sa justice à l'humanité. Et comment est-ce qu'il l'a prouvé? Parce que celui qui l'a envoyé s'est ressuscité d'entre les morts. Maintenant, à ce moment-là, mes amis, les Athéniens, on dirait en bon québécois, ils ont capoté. Avec raison. Parce que le mot en grec pour ressusciter, anesthésia, veut dire... Voilà, voilà. Ah, merci David. Voilà. Veut dire... Non, non, plutôt dire qu'est-ce que ça veut dire. Je vais l'illustrer. Ce matin, quand votre réveil matin a sonné, et quand vous vous êtes levé debout, en grec, on aurait dit que vous êtes ressuscité. Quand moi, j'ai mis la chaise à côté, en grec, j'aurais dit, je me suis resté debout. Et quand Paul a dit que celui que Dieu a envoyé, qui a pénétré le présent et il a prouvé sa justice en se ressuscitant d'entre les morts, les Grecs ont dit, ça, c'est du pur chinois. On ne comprend rien. Mais quelques-uns, y compris Denise et Damarias, ont décidé de continuer avec Paul. En conclusion, deux choses. Est-ce que Paul a bien communiqué? Quand moi, j'ai fait mes études théologiques, mon prof était catégorique. Paul était un échec. Il n'y a pas d'église. Il a foutu le camp. Non, Paul a raté. Il aurait dû rester avec les Juifs. Après mûre réflexion, j'ai dit à mon prof, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous avez tort. Vous avez pris une photo de la visite de Paul à Athènes. Et dans la photo, oui, Paul était un échec. Mais j'ai dit, prenons un vidéo. Et où est-ce que l'Église est la plus forte en Grèce aujourd'hui? À Athènes. Et Paul a semé l'Évangile. Donc, qu'est-ce que Paul a fait? Paul, il n'a jamais mentionné le nom de Jésus. Pensez-y deux secondes, mes amis. Est-ce qu'on peut porter témoignage sur Jésus et tous ses enseignements en parole et en action sans mentionner le nom de Jésus? Paul l'a fait. Paul n'utilise pas le Torah. Il n'a pas apporté ses rouleaux avec lui. Non, il a utilisé les citations des poètes grecs. Il était capable de jeter un pont pour rejoindre ces gens. Donc, mes amis, en conclusion ce matin, Paul a parlé d'une personne, sans donner un nom, mais il a piqué leur curiosité. Il a offert un don de la repentance. Il exigeait une réponse et Denise et Damarias ont dit oui. Mais n'oubliez pas, Paul a visité le milieu avant de faire quoi que ce soit. Et ce matin, je vous lance le défi. Est-ce que vous connaissez bien votre milieu? Avez-vous jamais pris le temps de balader dans votre quartier et l'approprier? Avez-vous jamais pris le temps d'écouter les gens autour de vous? Qu'est-ce qu'ils pensent? Pourquoi ils pensent? Avez-vous jamais considéré comment vous allez jeter un pont avant de parler? Et voici ce que Paul a fait. Donc, en conclusion ce matin, j'aimerais vous inviter de courber vos têtes. J'aimerais inviter l'équipe de musique de s'avancer. Et j'aimerais vous inviter de penser au centre-ville de Montréal. Avez-vous jamais pris le temps juste de vous asseoir dans un Second Cup ou un Starbucks et écouter les gens? Si vous êtes étudiant au cégep ou à l'université, êtes-vous jamais assis juste pour écouter qu'est-ce que les gens pensent et dialoguer avec eux? Avez-vous jamais fait ce que moi j'ai fait hier? Visiter un de vos amis musulmans pour exprimer votre tristesse pour ce que la communauté musulmane à l'échelle mondiale vit à cause de cette atrocité? Mais n'oubliez jamais, mettez toujours l'accent sur une personne. Offrez le don et offrir une occasion pour les gens de répondre. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie ce matin pour mes amis présentes. Merci pour leur dévouement. Et je te demande, Seigneur, de les utiliser ici dans le centre-ville de Montréal et dans le quartier où se trouve leur groupe maison pour qu'ils puissent suivre l'exemple de Paul, mais à Montréal. Et nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen.